Moi, je voudrais bien vous poser une question qui est peut-être un peu personnelle. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Vous qui êtes né dans une famille qui est à la fois bouddhiste et catholique, comment est-ce que vous, à titre personnel, vous avez fait votre cheminement de croyance ou de foi? Est-ce qu'il peut y avoir un chemin médian entre les deux?
Possibilité voilà. De synthèse.
Alors, je vais éviter de vous répondre sur le plan personnel parce que c'est trop intime et pas trop rentrer dans ces détails. Mais comment dire, ce qui est certain, c'est que étant dans cette situation, je me suis moi-même mis à réfléchir dessus, bien sûr, en essayant de prendre un peu d'objectivité et de distance critique. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur les chrétiens bouddhistes. Enfin, voilà, pour vous dire qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui se retrouvent dans la même situation. Ce qui est d'ailleurs pas très étonnant, parce qu'on pourrait dire, la France étant un pays majoritairement de culture chrétienne jusqu'à présent, eh bien, la plupart des gens qui sont devenus bouddhistes, ou qui ont rencontré le bouddhisme, disons-le comme ça, la grande majorité d'entre eux étaient de culture chrétienne, pour le moins, voire d'appartenance chrétienne, avec toutes les nuances qu'il faudrait mettre aussi, la surculture, l'appartenance professionnelle, etc. Ce qui fait dire que moi, après un peu empiriquement, là aussi pour fréquenter ces milieux depuis évidemment quasiment ma naissance, eh bien, je me suis rendu compte qu'en effet, beaucoup de gens, par exemple, qui vont se dire bouddhistes, dès qu'on gratte un petit peu, ils vont dire bah « Oui, mais j'ai quand même un lien avec le christianisme aussi. Je viens d'une famille protestante ou catholique. » Bien sûr, vous trouvez aussi des juifs bouddhistes. Alors, des musulmans bouddhistes, je n'en ai pas encore rencontré. Mais ça devrait exister peut-être par la suite. À voir si c'est possible, compatible. Hein, bon. Dans le cas, en tout cas, des juifs et des chrétiens, on a plein d'exemples, hein, de gens qui sont voilà, dans des synthèses à chaque fois complexes. Hein, c'est pas sans lien avec ce qu'on appelle parfois, vous savez, en termes sociologiques, le bricolage. Hein. C'est-à-dire qu'on a des appartenances multiples, et chacun va essayer de s'arranger un petit peu avec ce qu'il a pu comprendre de l'une et l'autre tradition, avec ses aspirations, ses besoins du moment, ses besoins existentiels, etc. Les deux communautés qu'il a en face de lui aussi. Hein. Ce qui nous permet de dire, par exemple, qu'il est plus facile d'être chrétien bouddhiste du point de vue bouddhiste que du point de vue chrétien. Hein. Vous êtes mieux reçu. Je dirais quand vous êtes un bouddhiste qui va dire bah, « il se trouve que j'aime bien quand même Jésus et que Jésus pour moi il a du sens et que j'ai un lien avec Jésus quand même. » Quand je lis l'évangile, ça fait quelque chose. Hein. Ça, souvent les maîtres bouddhistes qui entendent ça, ça ne va pas leur poser problème, en tout cas au début. Et là on pourrait dire que c'est une forme subtile de prosélytisme. En gros dans l'idée de dire la religion du pays majoritaire, la religion majoritaire c'est le christianisme. Donc nos prosélytes, hein, les gens qui vont vers le bouddhisme, on ne va pas leur demander d'abord de renoncer à leur religion. On leur dit, mais non, vous pouvez cheminer avec le Bouddha sans renoncer à Jésus. Venez chez nous, venez méditer, etc. Puis vous verrez par la suite. Donc ce qui correspond à la fois à la grande ouverture d'esprit bouddhiste, indéniable, hein, je veux dire, c'est fondé doctrinalement ce type d'attitude, mais c'est aussi très pragmatique, bien sûr. Parce qu'en effet, vous allez avoir tout un tas de gens qui vont se retrouver au bout d'un moment, ben, hein, les deux à la fois, ou pris entre les deux. Vous voyez, bon. Sachant, comme je dis, cette attitude, elle est valable au début, parce que quand vous voulez aller plus loin dans le bouddhisme, on va assez rapidement vous dire aussi, attendez, il faut choisir. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, ou en tout cas difficilement compatibles. L'existence du Dieu créateur. Hein. Dans le christianisme, rien ne s'explique sans Dieu. Dieu est au centre de tout. Bien sûr. Dans le bouddhisme, je l'ai dit tout à l'heure, on a une religion non théiste. C'est-à-dire que l'idée de Dieu créateur est une idée qui est explicitement réfutée par les textes bouddhistes. De façon très intéressante, d'ailleurs, vous savez, le Bouddha, enfin, si c'est lui qui nous parle à travers ses textes, c'est censément lui, explique que oui, il y a un grand Dieu, il y a un Dieu, il y a un Deva qui croit être le créateur. Pourquoi? Parce que quand un univers apparaît sous l'effet des causes et des conséquences, la loi du karma, la coproduction conditionnée, hein, il y a des myriades d'univers qui apparaissent, qui disparaissent à chaque instant. Quand un univers apparaît, il y a un être qui va naître le premier dans cet univers. En général, c'est un Deva. Un déva très puissant, un être voyez, qui a un karma très puissant, très positif. Et cet être qui apparaît dans l'univers, et qui est un univers vide, il va se dire, bah, c'est moi qui l'ai créé. Hein, puisque je suis le premier, je suis tout seul. Hein. Et donc, certains bouddhistes pensent que les gens qui disent que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a dit qu'il avait tout créé, c'est vrai. Hein. C'est un déva qui existe réellement, qui leur a dit, j'ai tout créé, etc. Sauf que ce déva se trompe sur qui a créé le monde. C'est pas lui qui l'a créé. Et ce débat, il va par exemple vivre des milliards d'années, mais il va finir par mourir. Et on pourra naître dans un autre univers, c'est une vie. Donc vous voyez, la subtilité de la position bouddhiste là-dessus, quoi, qui est bien loin de ce qu'on pourrait appeler un athéisme au sens vulgaire du terme. Et donc voilà, pour vous répondre, voilà, sur le... Vous voyez, alors après, la compatibilité des deux traditions, alors à la fois, je dirais, il y a des points comme ça de complexité ou de tension, mais qui me semblent aussi éventuellement dépassables. Hein. de bien des façons. Et notamment, voilà, qu'est-ce que les chrétiens appellent Dieu ? Là, je vous ai fait le Dieu créateur un peu caricatural, en quelque sorte. Presque l'ancien des jours à barbe blanche, du Moyen-Âge. On sait très bien que, par exemple, la plupart des chrétiens, je dirais des monothéistes, ne voient pas Dieu comme ça. Enfin, j'espère. On se demande parfois. Mais que vous avez le Dieu des mystiques. Hein. Le Dieu de Saint Jean de la Croix, ou le Dieu de Maître Eckhart, c'est pas celui-là. Hein. Ou c'est pas seulement celui-là. C'est celui-là connecté avec tout un tas d'autres dimensions. Hein. Et est-ce que le Dieu des mystiques, le Dieu de Saint Jean de la Croix, il est réfuté par tout le discours bouddhiste que je viens de vous dire? Ben, je crois pas, en fait. Il n'est pas réfuté par ça. Parce que, au fond, ce que les monothéistes appellent Dieu, eh ben, c'est l'absolu et l'infini. Hein. Et là, si vous passez donc à un niveau beaucoup plus profond de comparaison, en disant les chrétiens ou les monothéistes appellent la réalité ultime, ils l'appellent Dieu. Et cette réalité ultime, elle a certes un aspect personnel, mais par exemple, Maître Eckhart pensait qu'elle avait des aspects impersonnels aussi, au-delà de l'aspect personnel. Eh bien, peut-être que les bouddhistes, de ce point de vue-là, qui eux sont surtout attentifs aux aspects impersonnels de la réalité ultime, peut-être que si on va très très haut comme ça, ou très très, ou qu'on descend très profond, ça devient plus ou moins compatible, vous voyez. Bon, ça, donc, je vais très vite, hein, mais c'est un exemple, vous voyez, de comment on peut, des fois, dépasser des contradictions qui semblent insurmontables. Certains peuvent les dépasser. Une autre façon de faire aussi, c'est de placer les deux traditions sur deux plans différents. Et ça, c'est plus répandu encore. Hein, vous avez non seulement des chrétiens, je dirais des simples fidèles, mais même des prêtres, qui vont méditer, par exemple, dans le cadre du bouddhisme zen. Et quand on leur dit, mais ça vous gêne pas, c'est pas incompatible, ils vont dire, mais pas du tout. Parce que ma religion, c'est le christianisme. Et le bouddhisme, c'est une pratique
c'est une philosophie,
de philosophie, de sagesse, de bien-être. Et donc, ce n'est pas sur le même plan. Voyez. Ça, c'est aussi une façon de concilier les deux. Voyez. Alors, pareil, là aussi, il y aurait beaucoup à dire hein, sur ça. Mais ça, ce sont des choses qu'on rencontre.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous situer? Vous n'avez pas évoqué le petit véhicule et le grand véhicule.
Alors, tout à fait, vous avez raison. Alors, ça fait partie, évidemment. Voyez, il faudrait faire des séances dédiées pour chacune de ces traditions. Vouloir faire les deux en une seule séance, c'est
est-ce que ça n'existe que dans le bouddhisme,
non,
par exemple?
C'est parce que j'ai envie de revenir vous parler. En fait, donc, le bouddhisme, traditionnellement, est classé en effet en ces trois véhicules. Un véhicule, c'est un terme pour dire chemin de progression. Trois chemins, en fait. Alors, la façon habituelle de dire, c'est Hinayana, hein, H-I-N-A-Y-A-N-A. Hinayana. Hina, ça veut dire petit. Alors, en l'occurrence, ça veut dire inférieur. Véhicule inférieur. Donc, comme vous l'imaginez, ce n'est pas les gens du Hinayana qui ont choisi ce terme-là. C'est des gens du Mahayana qui disent Hinayana. Le Mahayana, ça veut dire véhicule supérieur, grand véhicule. Maha, comme Taj Mahal, hein, Mahatma Gandhi, Maha, c'est grand en sanskrit. Le Mahayana, c'est le grand chemin. Et puis, vous avez le Vajrayana, V-A-J-R-A-Y-A-N-A, Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule de diamant foudre. Ça, c'est le bouddhisme tantrique, le bouddhisme himalayen, celui du Dalai Lama. En fait, historiquement, ces trois courants procèdent de ce qu'on appelle le bouddhisme ancien. Et le bouddhisme ancien, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaît avec Gautama et qui va vivre pendant des siècles, des siècles, des siècles, et qui va déboucher sur ces trois courants principaux qui sont encore vivants aujourd'hui. Une présentation fausse, ou enfin caricaturale, vulgarisée, mais qui est problématique, qu'on trouve très souvent, c'est celle qui tendrait à dire que le Hinayana, c'est le bouddhisme ancien, puis il y a le Mahayana, puis il y a le Vajrayana qui apparaît. Vous voulez mettre de la chronologie dans tout ça. Là où c'est trompeur, c'est qu'en fait, le bouddhisme ancien, est le tronc commun de tout. Hein. Et ce que les mahayanistes vont appeler par la suite Hinayana, de façon péjorative, il convient mieux de l'appeler Theravada. Hein. Le nom que les gens du Hinayana, entre guillemets, donnent à leur tradition, c'est Theravada. T-H-E-R-A-V-A-D-A. Theravada, c'est-à-dire le véhicule, la vision des anciens, la vue des anciens. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Hein. Les gens du Mahayana, qui historiquement apparaissent après ceux du Theravada, et encore là aussi, je frémis en disant ça parce que c'est tellement compliqué, eh bien, vont inférioriser leurs prédécesseurs, en disant, nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Nous, on a une compréhension plus juste, plus vaste. Hein. Et bien sûr, les dix prédécesseurs vont, eux, résister à cette opération en disant, non, vous n'êtes pas dans quelque chose de plus grand, vous êtes dans quelque chose d'innovant, hein, de nouveau, sous-entendu d'hérétique. Hein, l'innovation, c'est une innovation blâmable, comme diraient les musulmans. Hein, c'est une innovation blâmable. Hein. Et donc, a fortiori pour le Vajrayana, qui est ce fameux bouddhisme tantrique. Alors là, il faudrait expliquer ce que c'est le tantra, et là aussi, bon, c'est pas une mince affaire.
Mais il y a une séquence prévue hein,
sur le tantrisme.
Bouddhisme, pas sur le tantrisme spécifiquement, mais sur le bouddhisme.
Ah oui, c'est ce que j'avais fait. On se retrouvera pour entrer dans ces détails-là. Mais vous voyez, donc. Et là où les choses, comme je disais, sont complexes, c'est qu'encore une fois, bon, le Theravada, qui se dit véhicule des anciens, il apparaît vraiment en tant que tel au 5e siècle de notre ère. Alors que le Mahayana apparaît en tant que tel au 1er siècle de notre ère. Alors, on sait, on pourrait dire, mais attendez, donc, le Theravada, il n'est pas plus ancien que l'autre. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, tout ça se fait concomitamment. Vous voyez, ce sont des écoles qui vont polémiquer les unes avec les autres, qui vont parfois changer de nom, qui se nomment l'une l'autre de façon polémique, et ainsi de suite.
Et aujourd'hui, elles coexistent ?
Alors, aujourd'hui, elles coexistent, en effet. Hein. Donc, on a toujours ce Theravada qui est le bouddhisme du sud de l'Asie. Ça, c'est ça qui est important de vous dire aussi, bien sûr. Le Theravada, c'est le bouddhisme qui est majoritaire à Ceylan, enfin Sri Lanka, Birmanie, Laos, Cambodge, et qui est présent aussi au Vietnam. Donc, vous voyez, le bouddhisme du sud de l'Asie, enfin de l'Asie du Sud, majoritairement Theravadine, pratiquement le Theravada. Le bouddhisme Mahayana, c'est tout le reste. Donc, le Vietnam, la majorité du Vietnam, Corée, Chine, Japon, Himalaya, donc Népal, une partie du Népal, parce qu'au Népal il y a beaucoup d'hindouisme, hein, c'est l'hindouisme qui est majoritaire au Népal, mais Mongolie, certaines républiques, enfin certaines parties de la Sibérie.
Et le Cambodge, c'est
Theravada. Voilà. Tout ça c'est Mahayana. Et en fait, au sein du Mahayana, vous avez certains pays qui sont majoritairement de tradition Vajrayana. Les pays himalayens, la Mongolie, la République de Touba, par exemple, ou la Kalmoukie, un pays auquel on ne pense jamais, et qui est d'ailleurs très très à l'ouest. Vous savez, la Kalmoukie, je ne sais pas si vous voyez, hein, où c'est dans la Fédération de Russie, c'est une petite fédération, une petite république du Caucase. C'est un pays qui est majoritairement bouddhiste de tradition tibétaine. Je vous ai parlé des détails historiques, comment c'est possible, mais c'est très étrange et très intéressant. Donc, voilà les pays, j'irais, marqués par la tradition bouddhiste. Et quand j'ai, alors après, je dis majoritairement bouddhiste, là, prudence. Est-ce que la Chine est majoritairement bouddhiste aujourd'hui ? Question très complexe. Hein. Il y a des grands spécialistes, notamment à l'école pratique ou au GSRN, qui pourraient vous répondre à ces questions, comme Vincent Gossard, par exemple, vous dire c'est quoi l'identité religieuse de la Chine ? Ben, c'est une question de recherche vraiment aujourd'hui très difficile à trancher. Hein. Entre voilà, le rouleau compresseur marxiste qui est passé avec le maoïsme, puis les évolutions contemporaines, la culture, l'occidentalisation, etc. Et par ailleurs, en même temps, le fond culturel chinois, hein, ce qu'on appelait la Chine des trois voies. Confucianisme, taoïsme, bouddhisme, qui est pourtant une religion qui vient d'ailleurs. Où on en est aujourd'hui sur que croient réellement les Chinois ? Je me tarderai bien, de répondre. C'est très compliqué. Il semblerait qu'il y a en tout cas un fort renouveau religieux en Chine. Le bouddhisme dit tibétain, le bouddhisme himalayen, est très à la mode en Chine aujourd'hui. Une bonne partie de la jeunesse s'y intéresse, par exemple. Donc, voilà, on a cette variété des traditions bouddhistes, et ce qui nous amène aussi à dire que, vous voyez, c'est très difficile de parler du bouddhisme au singulier. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est très difficile de parler de l'hindouisme au singulier. Du bouddhisme, c'est aussi difficile. Hein. Faudrait bien, peut-être, plutôt dire les bouddhismes. Hein. Mais là, vous savez, chaque spécialiste de chacune des religions va vous dire ça. Les christianismes, les islams, hein. Voilà, il faut tout mettre au pluriel. Les laïcités.
C'est Jean Bouvéreau. Ça, on verra le Jean Bouvéreau. Lesquels qui est le plus pratiqué aujourd'hui, le bouddhisme, les trois courants ?
Alors, c'est difficile de répondre justement parce qu'on a toute cette grosse hypothèque de la Chine. Selon que vous comptez beaucoup de bouddhistes en Chine ou pas, les bouddhistes de Chine sont mahayanistes. Donc c'est toute la question en gros. Vous voyez, les pays majoritairement theravadines, ça fait des centaines de millions d'habitants déjà. Bon. Le Japon, c'est très compliqué aussi, le Japon. Quelle est l'identité religieuse du Japon ? On est dans des modèles syncrétiques, en fait. Les Japonais, ils sont Shinto quand ils naissent, bouddhistes quand ils meurent, et chrétiens quand ils se marient. Hein. Bon, je dis chrétiens quand ils se marient pas à l'église, mais ils se marient sur une symbolique occidentale, aujourd'hui. Vous savez, hein, on est en smoking, en blanc, etc. Et bon, on est dans un imaginaire de type occidental du mariage protestant, en tout cas, ou d'ambiance chrétienne. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est pour dire, voilà, dans une des choses qui rend le regard porté sur l'Asie religieuse très complexe, c'est un monde qui fonctionne par agrégation, agglutination, et pas par disjonction. Dans les monothéismes, on est dans des modèles de disjonction. Et d'ailleurs, même qu'il faudrait là aussi regarder de près, parce que quand on regarde la Méditerranée au XVIe siècle, par exemple, vous voyez, il y, il y avait pas mal de gens qui avaient des identités multiples ou complexes. Hein. Des renégats, par exemple, ou des gens qui passaient d'une culture à l'autre. Bon. Toujours est-il que dans la doctrine monothéiste, on ne peut pas être plusieurs choses à la fois. Dans ces cultures-là, on peut être plusieurs choses à la fois. Tout le monde est plusieurs choses à la fois. Hein. Donc comment ranger les gens dans des cases, c'est très compliqué. Hein. Et dans l'Asie religieuse, on a plutôt des modèles de pragmatisme. Hein. Quand j'ai un tel besoin, si le moine bouddhiste est meilleur pour soigner telle maladie, je vais voir le moine bouddhiste, je fais des offrandes et vive Bouddha, quoi. Si par contre c'est le maître taoïste qui pourra m'aider pour telle ou telle autre question, je vais voir le maître taoïste, il n'y a pas de problème. Et je suis très respectueux et je ferai ce qu'il faut pour faire les rituels nécessaires, vous voyez. Ça ne pose problème à personne. Donc pour vous dire, voilà, c'est très difficile de répondre. Alors aujourd'hui, on trouve des chiffres comme quoi le bouddhisme serait... je crois, cinquième religion du monde, etc. C'est très délicat. Tout dépend de combien de gens on attribue, vous voyez, voilà, en fond de tout ouais. Ce que j'ai dit, voilà, comment on compte les bouddhistes. Ce qui est vrai, c'est que c'est une religion qui semblerait plutôt en perte de vitesse, hein, alors que, par exemple, vous voyez, le christianisme et l'islam continuent à progresser, l'hindouisme aussi, hein, même si l'hindouisme est plutôt dans son isolat, mais il a une démographie très dynamique, hein. C'est quoi qui fondait le constat de notamment de Philippe Cornu qui avait dit, je crois, à vos prédécesseurs que c'était une religion plutôt en difficulté. On lit des discours un peu pessimistes sur le bouddhisme en disant voilà que le bouddhisme est une tradition parmi les grandes traditions. Je crois que c'est Odon Vallée qui dit ça aussi. C'est l'une des seules à être plutôt soit en stagnation, voire en recul démographique. Hein. Bon, mais il y a aussi toute la question du bouddhisme en Occident. Hein. Quid du bouddhisme en Occident? Très grosse question de recherche. Combien de bouddhistes en Occident? Hein. L'Union bouddhiste de France revendique 1 million de membres. Moi, je et d'autres chercheurs, on est très dubitatif face à ce nombre. Hein. 1 million de bouddhistes. Mais d'abord, qui est bouddhiste? Comment vous les comptez?
Comment on devient bouddhiste en France?
Alors, on devient bouddhiste en principe par un rituel qui s'appelle la prise de refuge, où en fait, on va se prosterner devant une statue du Bouddha. Alors, si c'est fait différemment selon les différentes formes de bouddhisme, moi, je connais surtout la forme dans le cas du bouddhisme tibétain, donc Mahayana Vajrayana. Où donc voilà, vous vous prosternez trois fois devant un lama, devant une statue du Bouddha, et vous dites oui, vous répétez des vœux, en fait, des souhaits, et vous dites que vous devenez comme un réfugié, c'est-à-dire que face à toutes les souffrances du monde, eh bien, votre refuge, c'est l'enseignement du Bouddha. Hein? Bouddha, Dharma, Sangha. Le Bouddha, son enseignement qu'on appelle le Dharma, et la communauté de ses fidèles qu'on appelle le Sangha. Ce sera ces trois-là, votre référence dans votre vie à partir de ce moment-là. Et ça implique un certain nombre de choses, en particulier, notamment, des préceptes éthiques. Ne pas tuer, ne pas voler, avoir une conduite sexuelle juste, ne pas absorber d'intoxicants et ne pas mentir. Hein, 5 préceptes. La morale universelle. Toujours pareil. Bon. Et aussi, respecter les objets bouddhistes. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est rassurant, et c'est surtout aussi, vous voyez, ça vous permet de voir aussi, contrairement à ce qu'on croit et on dit souvent sur le bouddhisme, le bouddhisme est une tradition qui a une composante éthique aussi rigoureuse et sourcilleuse que toutes les autres religions, qui a des contenus dogmatiques. Hein. Souvent, les bouddhistes, aussi, d'un point de vue apologétique, dans une logique prosélyte, ils vont, parce qu'ils savent que ça plaît aux occidentaux, atténuer ces aspects-là. Ils vont dire « Ah non, mais nous, on est souples, vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire, en fait. Ouais, » Voilà, on commence par là. Hein. Et puis après, ah bah si, quand même, un peu. Hein, mais, voilà, ouais, il faut mieux éviter quand même de voler, si vous pouvez. Il faut mieux éviter de boire de l'alcool. C'est mieux de ne pas en boire quand même, hein, idéalement. Et ainsi de suite, vous voyez. Et donc, à ce côté aussi, on pourrait dire, là, je suis un peu, vous voyez, je souris. Mais même dimension pragmatique, aussi, pédagogique en quelque sorte. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gens d'abord d'entrer par le plus difficile. On les accompagne dans leur expérience. Pour que, par eux-mêmes, ils comprennent pourquoi il est important d'avoir une éthique, par exemple. Et ça, c'est le génie du bouddhisme. Je veux dire, c'est quand même une de ses grandes forces, hein, qui n'est pas sans rapport avec la question du dogmatisme aussi. Hein. Y a-t-il des dogmes bouddhistes? Beaucoup de bouddhistes vous diront pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont bouddhistes. Hein. Les dogmes, c'est pour les autres. Mais en fait, bien sûr qu'il y a des dogmes bouddhistes. Hein. Ne serait-ce que l'idée que le Bouddha a atteint l'éveil. Hein. Cette idée première que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un homme, il y a 2500 ans, qui a atteint une expérience spirituelle fondamentale qui lui permet de guider les autres hommes vers la même expérience, et que cette expérience, c'est l'ultime, c'est le but de la vie, hein, c'est l'absolu et l'infini, ben ça, c'est un acte de foi. Hein. C'est-à-dire, je ne peux pas prouver par ma raison que c'est vrai. Hein. J'y crois ou j'y crois pas. Hein. Les renaissances, bien sûr. Hein. La loi du karma est complètement liée à l'idée de renaissance. Parce qu'il y a tellement de riches non vertueux qui sont morts tranquillement dans leur lit, que vous imaginez bien le problème. Hein. Il faut bien qu'ils récoltent les fruits de leurs actes par la suite. Hein. Bon. Et donc, voilà. Et ça, c'est un dogme. Hein. On ne peut pas prouver par la raison qu'il y a des renaissances. Hein. Or, c'est fondamental dans la doctrine bouddhiste. Sauf que les bouddhistes ne vous disent pas ça au départ. Hein. Ils vont vous dire non. Ils vont vous dire les quatre nobles vérités. Vous savez, ça, c'est, et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une grande force d'un point de vue de conviction, en quelque sorte. Hein. De dire, le Bouddha de dire, ne croyez pas ce que je vous dis, mais expérimentez-le par vous-même. Et qu'est-ce que je vous dis? C'est que tout est contaminé par l'insatisfaction. Première vérité des nobles. La première vérité énoncée par le Bouddha, tout est contaminé par dukkha, la frustration. La frustration est au cœur de notre expérience humaine en permanence, plus ou moins. Là, ça va, je l'espère pour vous. Non. C'est pour ça que, par contre, on emploie le mot souffrance. J'espère que vous n'êtes pas en train de souffrir, que mon exposé n'est pas trop insupportable, mais si on regarde la Syrie, oui, il y a la souffrance dans la condition humaine, il y a des gens qui souffrent vraiment. Hein. Mais ce qu'il y a partout, c'est l'insatisfaction, le malaise. Hein. Bon. Deuxième vérité des nobles, cet état de dukkha, cet état de frustration, il a des causes. Il ne vient pas de nulle part. Et les causes de dukkha, ce sont là, d'abord, on pourrait dire la soif. C'est-à-dire le désir. C'est ce qui est énoncé en premier par le Bouddha. Quand on va voir dans les développements ultérieurs de la doctrine bouddhiste, vous avez derrière le désir l'égocentrisme, qui est encore plus source de souffrance que le désir. C'est plutôt que c'est le désir égocentrique qui est source de souffrance, ce n'est pas le désir en tant que tel. C'est ce qu'on appelle la saisie attachement, la saisie égotique. Et encore plus fondamentalement, quelle est la cause de la saisie égotique? C'est l'ignorance. Et là, on retrouve Socrate. Hein, nul n'est méchant volontairement. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous sommes ignorants, en fait. Nous sommes illusionnés et nous poursuivons des faux biens qui nous font souffrir au lieu de nous rendre heureux.
Nous nous trompons sur notre vrai désir.
Exactement. Nous nous trompons sur notre vrai désir. Voilà. Et quelle est cette illusion fondamentale? C'est l'ego, justement. L'ego, l'égocentrisme, c'est de croire... Enfin, moi d'abord, voilà. Nous tous, spontanément, le vécu humain, l'expérience universelle de tous les êtres humains, semble-t-il, c'est moi d'abord. Pour moi le meilleur, pour toi le moins bon. Il y a deux morceaux de gâteau, je prends le plus gros, pour moi. Sauf si j'étais lui, mais bon, le petit enfant il va prendre le plus gros pour lui. Bon, c'est la nature humaine. Oui. Et bien le Bouddha nous dit, c'est ça la source de tous les malheurs, de toutes vos souffrances, c'est ça. C'est la deuxième vérité des nobles. La troisième vérité des nobles, cette situation n'est pas définitive. Nous sommes tout le temps dans dukkha, dans la frustration, mais on peut s'en sortir. Vous voyez à quel point, de ce point de vue, il y a eu un grand malentendu historique fait par l'Occident à l'égard du bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas un pessimisme, encore moins un nihilisme. Contrairement à ce qu'on lit encore souvent dans une polémique anti-bouddhiste, et ce que, par exemple, le pape Jean-Paul II disait encore dans les années 2000. Le bouddhisme est nihiliste, pas du tout. Mais il n'est pas pessimiste non plus. Puisque si le Bouddha repère la maladie de dukkha, c'est pour la guérir. C'est pas pour nous y maintenir. Donc, troisième vérité des nobles, il y a une issue à dukkha, et cette issue, ça s'appelle le nirvana. C'est l'origine de ce terme nirvana, qui veut dire extinction de la souffrance, extinction de dukkha, extinction de l'illusion, extinction de l'ego. Ça, c'est la troisième vérité des nobles. Quatrième vérité des nobles, voilà les quatre vérités des nobles, qui certains disent sont à l'origine de notre expression dire les quatre vérités à quelqu'un. Je lui ai dit ces quatre vérités, hypothèse possible de l'origine de l'expression, à vérifier. La quatrième et dernière, c'est le chemin qui permet de conduire à la cessation de dukkha, le chemin qui conduit au nirvana, les causes de l'éveil. Vous voyez, donc vous avez l'insatisfaction et ses causes, l'éveil, la libération de dukkha et ses causes. C'est très symétrique, c'est très logique. C'est par là qu'on rentre dans le bouddhisme. Et vous voyez, et là, pour le coup, c'est pas dogmatique, ça. Ça part de notre expérience. On vous demande pas de croire quelque chose de particulier. On vous demande un peu de croire au nirvana quand même. Bon, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir. C'est vrai que si on s'arrêtait aux deux premières vérités, ben là on est très déprimé. Là où il faut croire le Bouddha sur parole, en tout cas, lui il nous dit, voilà, moi j'en suis sorti, faites comme moi, vous verrez que vous allez en sortir aussi. Mais il faut lui faire confiance. C'est fort de tout ça que malgré tout, voyez, je pense que même s'il y a ce raisonnement de type médical ou philosophique, qui permet de dire que le bouddhisme est aussi, à certains égards, une thérapeutique ou une philosophie. Néanmoins, il est fondamentalement une religion, parce qu'il a tous les critères des religions, et notamment, il y a des aspects dogmatiques, des aspects rituels, des aspects symboliques, des aspects institutionnels. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bouddhisme est une tradition fondamentalement monastique. Le bouddhisme s'est toujours transmis par des moines et des moniales. C'est d'ailleurs une question pour aujourd'hui en Occident. Le bouddhisme va-t-il continuer à se transmettre de cette façon-là? Ou va-t-il se disparaître en Occident à terme, parce qu'il n'y aura pas assez de moines et de moniales? Ou va-t-il émerger un nouveau bouddhisme sans moines et sans moniales? Vous voyez, c'est tout un tas de questions pour l'avenir religieux de l'Occident que l'arrivée du bouddhisme pose aujourd'hui.
Le mot de la fin.
Et le yoga dans l'histoire, parce que vous l'avez évoqué à toute vitesse, mais c'est quoi, c'est une...
Le yoga, au départ, c'est une des traditions
c'est la dernière, il y a déjà.
Déployée par l'hindouisme, enfin, ou le brahmanisme, et donc là, le yoga a des racines qui remontent très très loin dans l'histoire des religions indiennes. Et qui va donc être à la fois mise en œuvre par l'hindouisme, par le bouddhisme et même par le sikhisme. La plupart des religions indiennes vont, d'une façon ou d'une autre, avoir leur yoga. Et alors le yoga, ça va être un exposé en détail, c'est très complexe et très varié. Le terme yoga est un mot qui a comme analogue dans notre langue le mot joug. Un joug, J-O-U-G, le joug, ou le yoke en anglais. Vous voyez, c'est l'idée de lier avec force. Le joug, c'est ce qui attache les bêtes à la charrue. Et bien, le yoga, c'est ce qui attache l'homme à la vérité ou ce qui attache l'homme à lui-même. C'est ce qui attache les différentes parties de l'être humain. Par exemple, son corps, sa parole et son esprit. Quand on comprend le terme yoga, on comprend pourquoi il y a un malentendu fondamental sur ce qu'est le yoga en Occident, puisque pour les Occidentaux, le yoga, c'est un exercice corporel. Alors que dans ses origines indiennes, le yoga, c'est un exercice du corps, de la parole et de l'esprit. C'est justement rassembler tout. C'est autant un travail de l'esprit qu'un travail du corps. Vous voyez ? Donc là, il y a un gros malentendu, bien sûr. Et donc, yoga, en fait, est un terme qui est devenu même générique aujourd'hui dans les traditions indiennes pour désigner toute voie spirituelle. Non seulement le hatha yoga, le yoga postural, qui est aussi un yoga de l'esprit, bien sûr, quand il est pratiqué comme il doit l'être en Inde, ce qui n'est pas le cas en Occident en général, sauf exception. Mais il y a aussi donc, le yoga en tant que voie religieuse, voie spirituelle. Par exemple, le bhakti yoga. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la dévotion à bhakti. Se prosterner devant une statue de Vishnu, verser du santal sur la statue, lui faire des offrandes, etc. Pour les hindous, c'est un yoga. C'est une voie spirituelle complète qui peut vous conduire à la libération, qui peut vous conduire à ne pas renaître et à vous libérer parce que vous serez fondu dans Vishnu à la mort. Peut-être même avant la mort, ça, c'est une des croyances des hindous, que certains êtres peuvent atteindre cet état de libération même avant de mourir.
Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous.
Merci. Bravo. Merci.